Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Restez avec nous, RFI vous donne la parole jusqu'à 11h heure de Paris, 9h temps universel avec comme tous les matins évidemment un débat, ce sera dans 30 minutes maintenant. Nous parlerons du dialogue national au Congo-Brazzaville, un dialogue convoqué à partir de samedi par le président Denis Sassou Nguesso. Alors officiellement il s'agit d'évoquer la gouvernance électorale et la réforme des institutions, mais l'opposition voit dans ce rendez-vous une manœuvre du chef de l'État pour essayer de modifier la constitution qui lui permettra donc de briguer un troisième mandat en 2016. En tout cas, mardi, Denis Sassou Nguesso était à Paris, il a été reçu par François Hollande et selon le communiqué de l'Élysée, le président français a rappelé à son homologue congolais que toute réforme constitutionnelle devait être le fruit d'un consensus. Alors justement, ce consensus est-il possible? On vous attend au standard, vous nous rejoignez 33 9 693 693 70. Évidemment, si vous êtes en France, vous composez le 09 693 693 70. Vous continuez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux sur la page Facebook de l'émission. Je lirai évidemment quelques-unes de vos réactions tout à l'heure pour alimenter le débat, pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Des questions s'agissant de tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours. On va commencer avec Dominique qui nous appelle du Mali. Bonjour Dominique.
Bonjour Annie.
Vous êtes à Bamako.
Bonjour, bonjour aux auditeurs. Oui, Bamako au Mali.
Voilà, vous avez des questions concernant le blocus de la bande de Gaza.
Oui. Israël a intercepté un bateau transportant des militants pro-palestiniens qui tentaient de rejoindre la bande de Gaza. À son bord se trouvaient l'ex-président tunisien Moussa Marzouki, un député israélien et une députée espagnole. Mmh. Alors, je voudrais savoir, ce député israélien doit-il s'attendre à des sanctions?
Ah, le député israélien s'expose-t-il à des sanctions? Alors on rappelle quand même que cette flottille comptait 4 bateaux transportant au total une cinquantaine de personnes. À bord, il y avait effectivement, comme vous le disiez Dominique, l'ancien président tunisien, Moussef Marzouki, mais il y avait plusieurs députés européens, un député grec, espagnol, aussi un député algérien et jordanien, et, vous le disiez, un député israélien. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous, vous êtes le correspondant d'RFI à Jérusalem. Autant dire que la présence de ce député israélien à bord de cette flottille a fait scandale en Israël.
Oui absolument, et plusieurs ministres et députés de la droite israélienne ont même réclamé des sanctions à l'égard de ce député israélien. Alors, il s'agit de Basil Ratas, qui est membre d'un parti qui s'appelle le Balad, et qui fait partie d'un groupe de partis arabes qui compte en tout 11 députés. Et Basil Ratas était donc à bord du Marianne, ce petit navire suédois qui a été arraisonné par la marine israélienne. Le ministre de la Science en Israël, Danny Danone, demande que M. Ratas soit tout simplement écarté du Parlement, mais d'autres députés de gauche, ceux-là, font remarquer que l'immunité parlementaire qui est accordée aux députés de la Knesset a précisément pour but de leur permettre de se livrer à ce genre d'activité. Alors le plus probable, Dominique, c'est que ce député sera entendu par une commission parlementaire sans que de véritables sanctions soient prononcées à son égard. Il faut rappeler qu'il y a 5 ans, une autre flottille visant à forcer le blocus de Gaza avait été arraisonnée par les commandos de marine israéliens. Alors il s'agissait d'une action beaucoup plus violente qui s'était soldée par la mort de 10 ressortissants turcs à bord du bateau Marmara. Il y avait aussi une députée israélienne à bord de ce navire, Khanin Zoabi, du même parti. Après de longs débats, la Knesset a décidé de la suspendre pour plusieurs séances, mais sans lui retirer son droit de vote.
Ah, donc on verra effectivement si ce député Basil Ratas bénéficiera du même sort ou pas. En tout cas, c'est vrai que sur place, il a fait l'unanimité contre lui. Il a été accusé d'être un traître. Le ministre de l'Immigration a notamment dit qu'il n'y avait pas de choses plus graves pour un député israélien que de participer à cette flottille dont le but, je le cite, était d'aider l'organisation terroriste Hamas. Dominique, vous avez une autre question?
Oui. Bon, quelles conséquences cette affaire pourrait avoir sur les relations israélo-tunisiennes et israélo-espagnoles?
Ah oui, vous faites référence à la présence donc de l'ancien président Moussef Marzouki, à la présence d'un député espagnol. Y a-t-il des conséquences, Michel Paul?
Oui, Israël a tiré les leçons de l'affaire du Marmara. Cette fois donc, les choses, on l'a vu, se sont passées en douceur. Israël a demandé l'aide de plusieurs gouvernements étrangers pour tenter de dissuader les militants pro-palestiniens de s'approcher des côtes de Gaza. Et en fait, 3 bateaux sur les 4 de cette flottille ont fait machine arrière. Alors pour ce qui est des relations avec la Tunisie, Dominique, elles sont inexistantes. Il n'y a pas de relations diplomatiques entre Israël et la Tunisie, donc il n'y aura pas de conséquences. Pour ce qui est de l'Espagne, les relations sont bonnes, même si parfois un peu tendues, mais cela n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec la Turquie, qui avait appuyé il y a 5 ans la flottille. Et les relations entre Israël et ce pays ne se sont toujours pas remis de cette affaire.
Ouais,
et
puis on rappelle quand même qu'il y a 5 ans, 9 militants turcs avaient été tués lors de l'assaut donné par l'armée israélienne.
Oui, absolument, c'était tout à fait différent. Mais alors, Moncef Marzouki, l'ancien président tunisien, et également la députée espagnole, députée européenne, en fait, ont été placés, Ana Miranda, c'est son nom, ont été placés dans un avion le jour même et renvoyés chez eux. Et on leur a donné une lettre du premier ministre Netanyahou qui leur a proposé de voguer la prochaine fois, mais cette fois vers les côtes syriennes.
Ah. Merci Michel Paul, merci d'avoir été avec nous en direct de Jérusalem. Bonne journée Dominique, vous étiez à Bamako, 33 9 693 693 70. Tiens, on va parler du Tour de France. Bonjour Abel.
Bonjour Anne.
Vous êtes au Togo, on vous écoute.
Durant la 3e étape du Tour de France, il y a une chute importante qui a occasionné plusieurs blessés et entraîné 15 minutes d'arrêt. J'ai à propos de questions.
Oui.
La première, comment expliquer la gravité d'une telle chute? Et la deuxième, plusieurs coureurs sont déclarés forfaits. Quelles sont les conséquences de cette chute sur le classement de ces joueurs et de leur équipe?
Oui, chute spectaculaire, vous avez raison. Ce qui a d'ailleurs obligé le directeur du Tour, hein, Christian Prudhomme, à interrompre la course durant une 20aine de minutes. Bonjour Frédéric Gassman.
Bonjour Juan et bonjour à notre auditeur togolais. On a vécu un tour du Togo tout à fait sympathique il y a quelques semaines de cela d'ailleurs.
Frédéric Gassman, toujours aussi passionné par le vélo. Frédéric, vous êtes l'envoyé spécial d'RFI sur la route du Tour. Vous êtes à Amiens où les coureurs sont arrivés hier après-midi. Que s'est-il passé lors de la 3e étape? Comment expliquer cette chute particulièrement violente?
Eh bien, cette chute s'est produite au 105e kilomètre, au moment précis où le peloton allait reprendre 4 coureurs échappés en vue de la côte de Boisso, qui était la première difficulté de cette journée, et même du Tour de France en 4e catégorie. Cette côte qui donnait lieu à la distribution de points pour le maillot du meilleur grimpeur. Alors, effectivement, c'est pas tellement le fait d'avoir voulu reprendre ces 4 coureurs échappés, qui de toute façon ne représentaient aucun danger pour le maillot jaune à ce moment-là, le Suisse Fabian Cancellara. C'est surtout que chacune des équipes voulait placer son leader dans les meilleures conditions au pied de cette côte, parce qu'il y a des intérêts financiers. Bien sûr, chaque point, ça rapporte de l'argent, hein, des euros à une équipe. Donc, chaque équipe voulait, sous la conduite bien sûr des directeurs sportifs, via les oreillettes, bien placer son leader au pied de cette côte. Et d'ailleurs, Marc Madiot, l'un des directeurs sportifs de la course, hein, de l'équipe française des Jeux, n'hésitait pas à l'arrivée au micro de Stéphane Lagarde, d'incriminer carrément les oreillettes en disant si la chute s'est produite, c'est parce qu'en fait, tous les directeurs sportifs donnaient la même instruction à leurs coureurs, c'est d'ailleurs de se placer à tel et tel endroit, et finalement, comme tout le monde voulait se placer au même endroit, eh bien, il y a eu embouteillage et il y a eu chute.
Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que l'oreillette fait polémique lors d'un Tour de France. Frédéric Gassman, alors il y a eu de nombreuses chutes, 20aine de coureurs à terre, il y a eu quand même des abandons. Quelles sont les répercussions, les conséquences sur le classement de ce début du Tour de France?
Ben, les abandons, oui, il y en a eu 4 principaux. Simon Gerrans, l'Australien, Dimitri Kozontchouk, un coéquipier de Vincenzo Nibali, Tom Dumoulin, le Belge, le Néerlandais, pardon, qui portait à ce moment-là le maillot de meilleur jeune. Quand je vous parle de Kozontchouk, ce n'est pas un coéquipier de Nibali, hein, c'est un coéquipier de Joaquim Rodriguez, le grimpeur espagnol de l'équipe Katusha, qui a d'ailleurs fini par gagner cette étape. Mais la principale conséquence, ça a été bien sûr l'abandon qu'on a appris après la course, hein, pas sur le coup. De celui qui, sur cette étape, portait le maillot jaune, mais qui de toute façon l'avait perdu à l'arrivée au mur de Huy parce qu'il avait perdu beaucoup de temps dans cette chute, parce qu'il souffrait du dos, c'était bien sûr le Suisse Fabian Cancellara. La principale conséquence, ça a été l'abandon de Cancellara, qui ne verra pas l'arrivée de son 11e Tour de France, lui qui avait par le passé endossé 29 fois le maillot jaune du Tour.
Ouais, Cancellara qui avait d'ailleurs déjà subi une chute sérieuse en mars dernier, ce qui l'avait empêché de participer notamment à Paris-Roubaix. En tout cas, des chutes, il y en a quasiment tous les jours, j'ai envie de dire, Frédéric Gassman. Encore hier, il y a eu de nombreuses chutes. Ça a d'ailleurs été une très mauvaise nouvelle pour le sprinter français Nasser Bouhanni, puisqu'il a été contraint à l'abandon. Croisons les doigts, espérons qu'il n'y en aura plus des chutes.
Bien sûr, chacun l'espère, chacun la redoute, la chute. Bon, il y a beaucoup de raisons. Il y a aussi le fait qu'il y a 198 coureurs quelquefois lancés sur des routes assez étroites, et puis des routes glissantes. Il a plu, par exemple, hier. Vous parlez de Nasser Bouhanni. Il est bien évident que ce garçon était déjà meurtri dans sa chair par la chute qu'il avait subie au championnat de France à Chantonnay il y a une dizaine de jours de cela. Et il est bien évident que si ça n'avait pas été le Tour de France, s'il n'y a pas eu de tels enjeux économiques, Nasser Bouhanni n'aurait même pas pris le départ du Tour de France.
Merci Frédéric Gassman, on vous retrouve dans le courant de la journée pour suivre l'étape du jour. Abbeville, Le Havre, 191 km avec également Stéphane Lagarde. 10h21 à Paris, ce sont vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Félie, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous appelez de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Vous avez des questions sur la Syrie?
Oui, c'est ça. Ah ben, j'avais attendu que M. Vladimir Poutine avait réaffirmé son soutien militaire et économique au gouvernement syrien. Ma question est celle-ci. Quelles seront les conséquences de cette annonce sur le terrain en Syrie?
Alors c'est vrai que Moscou a promis une aide politique, économique et militaire au régime de Bachar el-Assad, et ce face à l'avancée de l'organisation de l'État islamique en Syrie. Fabrice Balanche est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du groupe de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Vous êtes un spécialiste de la Syrie. Depuis le début du conflit, depuis maintenant plus de 4 ans, la Syrie est un allié de premier plan. La Russie est un allié de premier plan du régime syrien. Autrement dit, cette annonce faite il y a quelques jours n'a rien de nouveau.
Non, cette annonce n'a rien de nouveau. Elle le fait taire, en revanche, les rumeurs qui circulaient dans les médias occidentaux de lâchage du régime de Bachar el-Assad par la Russie, suite aux défaites que le régime syrien a connues dans le nord-ouest du pays, la chute de la ville d'Idlib, par exemple, les menaces sur Alep. On s'est dit que la Russie, finalement, allait peut-être abandonner le régime. En fait, pas du tout. Il y avait des rumeurs comme quoi la Russie rembarquait son personnel militaire en Syrie. Sans doute qu'il y avait dit un roulement de personnel, parce que pour avoir été en Syrie début juin, bon, j'ai pu constater qu'à la base russe de l'attaquer, le personnel russe était toujours là. À Tartous, le port où les bateaux russes amènent le matériel militaire, eh bien, on continue le roulement comme si de rien n'était. Donc l'armée syrienne continue à recevoir du matériel, un soutien logistique de la Russie.
Ça signifie que la Russie est toujours... Ça signifie, Fabrice Balanche, que la Russie est toujours le premier fournisseur d'armes de la Syrie?
Oui, la Russie est toujours le premier fournisseur d'armes. C'est grâce à son soutien militaire que le régime peut combattre. Le soutien économique vient évidemment davantage de l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran a consenti de nouveau un prêt $1 milliard au régime de Bachar el-Assad. Là aussi, pour faire taire les rumeurs de lâchage de la part de l'Iran. Ça s'inscrit toujours dans cette politique qui est de soutien au régime syrien. Depuis 2011, la Russie a considéré que les Occidentaux avaient outrepassé la résolution 1789 sur la protection des civils en Libye et qu'ils n'avaient pas à faire tomber Kadhafi. Donc à partir de là, eh bien, ils ont mis 3 vétos successifs à toute tentative de faire monter le dossier syrien au chapitre 7, c'est-à-dire une intervention militaire pour protection des civils. Depuis, il n'y a pas eu d'autres tentatives, d'ailleurs, parce qu'on sait très bien que les Russes mettront leur veto.
Oui. Quand on dit soutien politique, ce soutien politique passe essentiellement par le Conseil de sécurité des Nations Unies et donc par ce droit dont disposent les Russes, le droit de veto.
Tout à fait, hein, les 5 membres permanents ont un droit de veto. Bon, il y a les Chinois aussi qui se sont joints aux Russes pour mettre leur veto. Pour Vladimir Poutine, le danger, évidemment, c'est aussi le terrorisme islamique, hein, avec la montée en puissance de l'État islamique, d'Al-Nusra, la filière syrienne d'Al-Qaïda. Ça devient extrêmement dangereux. Il y a énormément de réseaux djihadistes qui recrutent en Russie, qui recrutent en Asie centrale, des Tchétchènes qui font les intermédiaires. On parle des quelques centaines de djihadistes venant de France, mais le phénomène est beaucoup plus important dans l'espace russe et inquiète énormément Vladimir Poutine, qui a très peur évidemment du retour de ces djihadistes, ou alors d'un djihad qui viendrait de Syrie, d'Irak, en direction des populations musulmanes du sud de la Russie.
Merci beaucoup Fabrice Balanche d'avoir été avec nous une fois de plus pour nous permettre de mieux comprendre le conflit en Syrie. On remercie évidemment Félie, hein, qui nous écoute à Kinshasa. 10h25 à Paris, n'oubliez pas dans un quart d'heure maintenant notre débat du jour. On va parler de cette polémique qui secoue la vie politique au Congo-Brazzaville. Le dialogue politique est censé démarrer dans 48 heures. L'opposition menace de boycotter ce rendez-vous. On va en parler ensemble, évidemment. Vous nous rejoignez 33 9 693 693 70. Bonjour Moussa.
Oui, bonjour Anne, bonjour David Thompson et tous les techniciens d'Appel sur l'actualité.
Eh bien, on transmettra vos amitiés à David Thompson. En tout cas, ce sera Boniface Vignon qui va vous répondre dans un instant. On accueille d'ailleurs Boniface. Bonjour Boniface.
Bonjour Fred.
Bonjour, journaliste au service Afrique des RFI. Vous avez des questions, Moussa, concernant le Burkina Faso et surtout le bras de fer entre le Premier ministre et le régiment de sécurité présidentielle.
Tout à fait, Anne. Alors, la semaine dernière, les militaires du RHP ont exigé la démission du Premier ministre Isaac Jida et tous les militaires dans le gouvernement de transition. Alors, je voudrais savoir pourquoi ce régiment exige la démission du Premier ministre Isaac Jida.
Alors, effectivement, eux exigent la démission du Premier ministre, ainsi que la hiérarchie militaire, et depuis deux jours, on l'a appris, le parti de l'ex-président Compaoré exige aussi le départ du Premier ministre Boniface Vignon. Que se passe-t-il? La pression monte sur le chef du gouvernement. Pourquoi sa démission est-elle demandée?
Tout à fait, Juan, et tout à fait, Moussa. Après leur manifestation de colère face à ce qu'ils qualifient de harcèlement de certains dirigeants de la transition, les soldats du régiment de sécurité présidentielle ont fait le tour de certaines radios privées de la capitale. Au moins trois des principales stations de radio privées de Ouagadougou ont reçu la visite de ces soldats. Armes en main, ces soldats se sont adressés aux responsables des rédactions de ces radios, leur disant qu'ils sont fatigués d'entendre parler d'eux tous les jours à la radio. Ces soldats s'insurgeaient contre les nombreuses accusations dont ils sont l'objet. Ils disent qu'on les accuse de tous les crimes alors qu'ils n'ont rien commis, nous a relaté un présentateur. Et avant de quitter le siège de la radio, ils ont lancé ce message: si les accusations continuent, nous sortirons nos griffes. Selon un autre confrère d'une autre radio, ces soldats du RSP affirment être contre la mauvaise gestion des deniers publics. Nous savons qu'ils volent l'argent du pays. Nous allons tous les arrêter et les présenter aux rétines menacées. Toujours selon des témoins, les hommes du colonel Céleste Koulibaly suggèrent que les civils n'interviennent plus dans les questions militaires. S'ils veulent continuer à vivre en paix dans le pays, le régiment de sécurité présidentiel a officiellement réagi sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce qu'il qualifie de harcèlement permanent de certaines autorités de la transition, ce qui aurait entraîné ces remous et les coups de feu.
Alors justement, il y a eu des coups de feu qui auraient été tirés en l'air pour protester contre la convocation de leur chef de corps et deux autres officiers par la gendarmerie nationale. Ça a été ce qui a vraiment déclenché véritablement la revendication de cette unité d'élite.
Il faut dire, Juan, que suite à des informations parvenues à la gendarmerie, les soldats issus du régiment de sécurité présidentielle auraient prévu d'arrêter le Premier ministre Yacouba Isaac Zida à l'aéroport de Ouagadougou à son retour d'un voyage officiel à Taïwan. L'avion du Premier ministre a finalement atterri à la base militaire de 511 et non à l'aérogare. On nous accuse d'avoir fomenté un coup d'État contre le Premier ministre, alors que c'est grâce à la gendarmerie que nous avons été informés de cela, assure un officier du RSP. Selon un autre officier, c'est l'entourage du Premier ministre Yacouba Isaac Zida qui a ventilé une rumeur sur l'arrestation de certains officiers du RSP suite à une tentative de coup contre le Premier ministre, une rumeur qui naturellement a mis certains soldats en colère, d'où des tirs au sein du camp. Ouais. Après avoir manifesté donc leur mécontentement à faire des tirs en l'air dans leur caserne, les soldats exigent désormais la démission du Premier ministre, ainsi que celle de tous les autres militaires du gouvernement de la transition.
Et le sujet fait réagir beaucoup d'auditeurs au standard. Restez avec nous, surtout ne bougez pas, on revient dans 10 minutes.